Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron. L'émission sur la métropole grenobloise. Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous, bienvenue dans la cinquième émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez votre émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui, dans Gracianopolis, un numéro spécial consacré au passage de communauté d'agglomération au statut de métropole. On va donc parler de Grenoble et des 48 communes qui l'entourent. Nous sommes en compagnie de Frédéric Jacquard, directeur de la mission métropole à Grenoble-Alpes Métropole. Yvan, nous sommes toujours ensemble pour animer cette émission. Bonjour Yvan.
Bonjour Rémi.
On commence immédiatement avec un papier sur le contexte et l'histoire de l'émergence de l'intercommunalité, ou de la métro comme on dit plus couramment.
L'intercommunalité de la cuvette grenobloise, que vous connaissez sous le nom de la métro, s'est transformée en métropole le 1er janvier 2015. Maintenant appelée Grenoble-Alpes Métropole, elle regroupe 49 communes du Sapin-en-Chartreuse au nord, à Vif au sud et de Veuret-Voroise au pied du Vercors, à Volnave-le-Haut sur les pentes de Belledonne. La commune de Grenoble est au cœur de cette métropole de 440 000 habitants. Elle concentre le tiers de sa population. La constitution de l'intercommunalité est une longue histoire. Cette histoire commence en 1966 avec la création d'un syndicat intercommunal d'une vingtaine de communes. L'intercommunalité s'est ensuite constituée en 1994 en communauté de communes, puis en 2000 en communauté d'agglomération. C'est en 2014 qu'elle s'agrandit en incorporant deux communautés de communes, celle du balcon sud de Chartreuse avec 5 communes et celle du sud grenoblois avec 16 communes. Au début 2015, l'intercommunalité devient alors une métropole comme 13 autres territoires en France. En effet, le 1er janvier 2015 est la date où la métropole devient le nouveau statut plus intégré d'intercommunalité pour les grandes villes. Lyon est devenue métropole avec un statut particulier, Paris et Aix-Marseille le deviendront le 1er janvier 2016. Ce changement concerne également les agglomérations de Bordeaux, Brest, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Le statut de métropole a été créé par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, adoptée en janvier 2014, dite loi MAPTAN, qui représente une nouvelle avancée dans la gouvernance et les modalités de coopération entre communes. La métropole est un EPCI, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. C'est l'outil d'organisation de l'intercommunalité pour porter un projet de territoire. Le projet politique est porté par un président, Christophe Ferrari dans le cas de Grenoble, et est débattu au conseil de la métropole où chaque commune possède des représentants en fonction de sa population. Alors qu'est-ce qui est nouveau dans le statut de métropole ? L'intercommunalité augmente ses compétences en nombre et en qualité. Aux compétences déjà exercées de l'habitat, de la politique de la ville, de la protection de l'environnement, des déchets, des déplacements et des eaux usées, viennent se rajouter de nouvelles compétences autrefois exercées par les communes. L'eau potable, l'urbanisme, les voiries, l'énergie, le développement économique et la promotion touristique. Ce statut donne plus de moyens d'action dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en détail durant cette émission. Mais avant cela, écoutons ce qu'en savent les habitants.
Est-ce que vous savez que Grenoble est une métropole depuis le 1er janvier 2015 ?
Oui, j'ai vu quelque chose là-dessus dans Métroscope.
Non, je savais pas.
Pas du tout.
Non, vous venez de me l'apprendre.
En métropole, ouais.
J'ai vu ça affiché sur un tramway, j'ai vu ça hier, oui.
Oui.
Non.
Et est-ce que ça change quelque chose pour vous ?
Pour le moment, non, absolument rien.
Pas grand chose.
Peut-être un peu plus d'aide de l'État pour Grenoble. Une remise aux normes de certains tramways, comme les A, je pense. Des agrandissements au niveau des logements.
Ben oui, ça change quelque chose pour moi, puisque je réside en centre-ville de Grenoble. Mon lieu de travail, c'est Champs-sur-Drac, du côté de Visil. Jusqu'à maintenant, si j'avais voulu aller en transport en commun au travail, il aurait fallu que je prenne un abonnement Transiver, spécialement pour aller jusque sur mon lieu de travail. Et là, avec la métropole, Champs-sur-Drac devient une commune de la zone TAG, et donc en prenant un ticket à l'unité, je peux me rendre au travail en bus si j'ai envie. Pour moi, c'est assez pratique.
On a donc le plaisir de recevoir Frédéric Jacquard. Comme je le disais tout à l'heure, Frédéric, vous êtes le directeur de la mission métropole à Grenoble-Alpes Métropole.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Grenoble est-elle devenue métropole au 1er janvier 2015 ?
Alors, tout d'abord, c'est, comme vous l'avez indiqué dans votre proto introductif, il y a une raison juridique. Grenoble forme, à la date de création de la métropole, un territoire de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. Au-delà de cette raison juridique, le législateur a voulu reconnaître en fait les atouts et le dynamisme de ce territoire, notamment ses atouts en termes de solidarité et de cadre de vie, en termes de recherche, d'université, d'économie, et donc du rôle joué déjà par ce territoire dans le développement du territoire national.
Alors, qu'est-ce qui distingue Grenoble de villes d'envergure équivalente? On peut penser à Reims, Angers, Clermont-Ferrand, qui comportent à peu près le même nombre d'habitants. Qu'est-ce qui fait que Grenoble est si spéciale et que ces villes ne soient pas devenues métropoles?
Alors, les trois communautés d'agglo que vous évoquez, Reims, Angers et Clermont-Ferrand, en fait, n'ont pas juridiquement le nombre d'habitants dans une aire urbaine de 650 000 habitants. Reims, 292 000 habitants, Angers, 391 000 habitants, Clermont-Ferrand, 370 000 habitants. Effectivement, le législateur a voulu donner un certain seuil pour bénéficier de ce statut de métropole, ce qui ne retire rien à ces trois communautés d'agglos dans le rayonnement de leur département. Le souhait du législateur, c'est vraiment de marquer les territoires qui, au niveau national, constituent d'une certaine façon des locomotives pour l'ensemble de la nation.
Donc on comprend bien que c'est la population, le nombre d'habitants qui régit un petit peu cette nomination.
Alors, c'est effectivement un critère facilement lisible. Mais en revanche, les parlementaires ont essayé aussi d'identifier des critères plus généraux qui permettent de qualifier le rôle, je dirais, de rayonnement de ce territoire. Donc des critères qui relèvent de la recherche, par exemple. Grenoble possède des outils qui sont reconnus au niveau mondial, avec notamment le SRF ou l'ILL, hein, le canon à neutrons. Grenoble possède un CHU de renommée internationale. Grenoble possède un campus universitaire important et c'est une université d'excellence qui est reconnue d'ailleurs au classement de Shanghai.
Donc là, vous nous parlez des atouts de la métropole grenobloise. Comment est-ce qu'on les conforte dans le temps ?
Alors le souhait justement à travers ce nouveau texte de loi et ce statut d'intercommunalité plus intégrée, c'est de permettre en fait à ce territoire de conforter ses atouts et les développer en donnant à la collectivité les leviers utiles pour justement permettre ce développement harmonieux sur l'ensemble des communes, mais également aussi permettre de rayonner sur les territoires voisins. Ces transferts de compétences des communes à la métropole donnent en fait à l'EPCI un ensemble de moyens pour intervenir de façon cohérente sur le territoire.
Alors quelles sont en l'occurrence ces nouvelles compétences au 1er janvier 2015 ?
Alors les compétences qui sont comprises dans la loi sont de deux ordres. Le premier, c'est ce qu'on appelle les compétences du bloc communal, c'est-à-dire que ça intéresse principalement les compétences qui étaient exercées par les communes. Le deuxième correspond à ce qu'on appelle des compétences conventionnelles que le PCI pourra éventuellement conclure avec l'État, c'est plutôt le logement, la région, c'est plutôt l'économie, et le Conseil général, c'est plutôt l'action sociale et les routes départementales. Le souhait de nos élus, pardon, c'est de se concentrer en fait sur l'intégration du bloc communal et de réfléchir à un dispositif de gouvernance qui permette d'associer pleinement les communes à la constitution de cette métropole. On est bien dans un dispositif où il n'y a pas le PCI d'un côté et les 49 communes de l'autre, mais bien 50 entités qui vont construire ensemble cette métropole.
Alors on va évidemment rentrer dans les détails de la métropole, mais avant ça, on fait une petite pause musicale. Thank you.
On vient d'écouter Peel, groupe de rock grenoblois, avec le morceau Doom Doom.
On enchaîne tout de suite avec plusieurs extraits d'interviews de maires de la métropole que l'on a pu interroger au sujet du transfert de compétences.
Qu'est-ce que le passage à la métropole change pour la commune d'Ebens ?
Le passage change essentiellement en ce qui concerne deux compétences, hein, qui sont des compétences de proximité, qui sont la voirie et l'eau potable. Les principales inquiétudes des habitants que nous commençons à recenser, c'est sur la gestion de proximité, hein, des espaces publics et transférés dans le cadre du transfert de la compétence voirie. Le gros changement va être de gérer le lien de proximité avec la métropole pour assurer un suivi de toutes les demandes des habitants et un suivi des travaux.
Pour la commune de Provézieux.
Ce qui change pour nous, c'est tout d'abord le changement de compétences, puisqu'un certain nombre de compétences qui étaient communales deviennent métropolitaines. Ceci impacte l'eau potable, la voirie, entre autres, et l'urbanisme au niveau du PLUI, c'est-à-dire le PLU intercommunal.
Au niveau des habitants, déjà, le passage en métropole entre le 31 décembre et le 1er janvier n'a rien changé, puisque les habitants n'ont rien vu de particulier. En revanche, c'est un bouleversement institutionnel avec notamment les compétences que la métropole va prendre et qui, pour une commune comme Jarry, sont de proximité. Et je prends l'exemple de la voirie, de l'eau. Donc ça, vraiment, ce sont des changements importants.
Pour votre commune de Vif,
On va donner la voirie à la métropole. Donc on n'aura plus, la maintenance des routes. Personnellement, ça ne me pose pas de problème parce qu'on gardera quand même nos ronds-points, on gardera nos places pour notre fleurissement, notre éclairage. Donc on aura encore à faire vivre, nous, notre ville de Vif. Et les villes, pour moi, de notre grandeur, n'ont pas toujours tous les moyens qu'il faut pour pouvoir entretenir nos routes. Donc un passage en métropole ne me pose pas de problème fondamentalement, à condition qu'on ait une relation très, très forte et très conviviale, je vais dire même, parce que nous sommes des gens du terrain. Donc c'est nous qui connaissons le mieux ce qui se passe. Mais aujourd'hui avec la métropole, je pense qu'on pourra bien échanger, bien discuter.
Alors les maires nous le rappellent tous avec un point de vue relativement différent, souvent d'ailleurs en fonction de la taille de leur commune. Les compétences que la loi MAPTAM confère à la métropole concernent la voirie, l'eau et l'urbanisme. Alors est-ce que ce sont les seules nouvelles compétences de la métropole, Frédéric Jacquard ?
Alors ce sont les principales, et effectivement les maires qui se sont exprimés ont bien insisté sur des compétences qui pour eux étaient importantes dans leur relation de proximité, dans leur gestion vis-à-vis de leurs citoyens. Il y a d'autres compétences qui sont concernées par ce transfert, notamment la promotion du tourisme, l'énergie, tout ce qui a trait à la transition énergétique, le développement économique, qui également sont concernés par ce transfert de compétences. Je crois que ce qui ressort des interviews des trois maires, c'est ce souci de dire « nous, on fonctionne en proximité, comment ça va se passer maintenant que c'est transféré à la métropole ?» Je crois que la volonté de nos élus, c'est justement de réaffirmer le rôle de la commune, et tous les débats qui se sont déroulés en 2014 pour préciser comment seraient exercées ces compétences, ont montré cette volonté de bien distinguer ce qui relève de la centralité et qui est géré au niveau de la métropole, et ce qui relève de la proximité et qui nécessite de conforter les maires dans leurs relations et dans leur connaissance effectivement du terrain.
Alors à ce propos, quels sont les avantages du regroupement des grands services urbains au sein d'une seule institution métropolitaine ?
Je crois que l'un des maires l'a évoqué en expliquant que les communes ont des détails qui ne leur permettent pas d'assurer pleinement les interventions, l'entretien du patrimoine et des réseaux. Justement, l'idée de ce passage en métropole, c'est une modernisation de l'action publique et de mutualiser les services de façon à la fois à donner une continuité et une garantie aux concitoyens, tout en permettant d'avoir des interventions cohérentes sur l'ensemble du territoire. Exemple, l'eau potable. Nous étions avant 2014 dans une situation relativement émiettée avec des syndicats des eaux, des régies d'eau potable, des sociétés d'économie mixte avec les SPL. L'objectif voulu par les élus, c'est justement de tendre vers un service unifié de l'eau potable, avec notamment la possibilité de mettre en place une tarification solidaire, ce qui a été voté en 2014.
Donc avec un impact direct sur les habitants.
Voilà, avec un impact direct sur les habitants.
Par ailleurs, Christiane Raffin, donc maire de Provézieux, parle du PLUI. Qu'est-ce que le plan local d'urbanisme intercommunal change dans l'approche de l'aménagement urbain ?
Je crois que là, comme sur les autres compétences, la volonté, c'est à la fois de prendre en compte les spécificités des communes, mais de les mettre en cohérence par rapport aux objectifs d'aménagement du territoire. Je vais prendre un exemple. Avant cette prise de compétence, la réalisation de zones d'activité pouvait se traduire, dans certains cas, par des mises en concurrence de chaque commune. Le fait d'avoir la compétence et d'avoir cette compétence aménagement sur les 49 communes permet d'avoir une vision globale et d'éviter justement cette concurrence entre communes. Le PLUI, en fait, sera un peu la façon de traduire en termes d'aménagement le projet de territoire, d'affirmer la cohésion territoriale et de conforter les solidarités qui sont actuellement sur ce territoire.
Alors, il y a évidemment d'autres documents d'urbanisme, le plan local de l'habitat, comment est-ce que, ou le PDU, le plan de déplacement urbain, comment est-ce que le PLUI se met en relation avec ces autres documents ?
Alors, c'est une question importante dans la mesure où le débat aujourd'hui, c'est de savoir si ce PLUI vaut PLH, donc programme local de l'habitat, et vaut éventuellement plan de déplacement urbain. En tout état de cause, le PLUI devra respecter les orientations du PLH, d'ailleurs qui est en adaptation pour 2014-2016, et devra bien sûr respecter les orientations du PDU. C'est un document de planification qui pourrait fédérer l'ensemble de ces problématiques d'aménagement, de déplacement et de logement.
Donc on va vers plus de cohérence, ça on l'entend bien. Donc on écoute un deuxième extrait d'interview avec les maires de l'agglomération sur la légitimité des communes face à ce transfert de compétences que nous évoquons depuis tout à l'heure.
Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre une certaine légitimité auprès de vos habitants par rapport à ces transferts de compétences ?
Si. Moi, j'ai eu quand même une impression de dépouillement de ces compétences. Pour l'instant, le passage en métropole se fait en douceur pour les habitants dans la mesure où nous avons avec la métropole, comme toutes ses communes membres, des conventions de gestion. Donc tout passe par la mairie et les décisions qui sont prises à la métropole sont prises en accord avec les maires puisque tout le monde est bien d'accord pour dire que la commune est bien l'échelon de proximité auquel les habitants sont attachés.
Guy Genet pour Vif.
Non, parce que tout simplement, non, il y a eu les transferts de tout ce qui est tout à l'égout, le transfert des ordures ménagères, les Vifois, lorsqu'ils ont un souci, ils viennent à la mairie, ils m'en parlent, et moi je fais le retour à la métropole. Je suis aussi conseiller communautaire, donc je suis un peu le facteur des Vifois vis-à-vis de la métropole.
Pierre Béjagy pour Ebens.
C'est tout l'enjeu de la métropole, c'est de faire en sorte que la commune reste le lieu de proximité et donc que la commune puisse faire le lien, alors d'une manière réactive, souple, avec la métropole, pour que l'on ne se trouve pas dans une situation, dans quelques années, d'un sentiment d'éloignement des lieux de décision vis-à-vis des habitants.
Est-ce que vous avez des retours habitants pour le moment, depuis un mois ?
Oui. Alors les premiers retours que l'on... Donc c'est une inquiétude que l'on s'efforce de dissiper, nous, en tant qu'élus. Je crois que ce sont les actions et les premiers dossiers de terrain qui montreront qu'on peut avoir une métropole de grands projets, mais aussi de proximité. Nous avons commencé à monter avec la métropole un groupe de travail sur les déplacements doux et sur les pistes cyclables, en associant les services de la métropole, les agents communaux et un groupe d'habitants intéressés. Et nous attacherons à ce que ces groupes se généralisent sur l'ensemble des compétences de la métropole pour que les habitants se rendent compte que la métropole, c'est nous.
Alors la question des compétences était jusqu'à présent centrale dans le pouvoir communal. Quel est désormais le rôle des communes qui voient leurs compétences diminuer, Frédéric Jacquard ?
Alors les communes conservent malgré tout un certain nombre de compétences. Par exemple, en matière d'urbanisme, si c'est effectivement la métropole qui récupère cette compétence, la signature des permis de construire reste au niveau du maire. Donc il y a bien ce lien entre ce qui doit être géré ou élaboré au niveau central et ce qui nécessite de s'appuyer sur cette connaissance fine que les élus peuvent avoir de leurs habitants et du terrain. Dans les interventions des maires, la question du rôle des maires dans la gouvernance de cette future métropole est un sujet aussi qui est en débat. L'idée, c'est de mettre en place des conférences de territoire, des conférences territoriales, qui seraient des lieux beaucoup plus proches des élus, permettant d'échanger sur les sujets métropolitains et également de débattre des projets intéressant le territoire concerné. Donc il y a bien cette volonté aussi de trouver un nouveau mode de gouvernance pour permettre ces échanges fluides entre la métropole et les communes qui la composent. Il y a un autre aspect sur le rôle des habitants. Il y a une véritable volonté d'accentuer ce qu'on appelle la participation citoyenne, avec notamment le développement peut-être de comités d'usagers, comme il en existe sur l'assainissement actuellement, de les généraliser sur l'eau potable et sur d'autres sujets, et puis peut-être de trouver des dispositifs innovants en matière de participation citoyenne, parce que, comme l'a dit le président dans ses vœux récemment, le président Ferrari, la métropole, c'est vous. Donc on va la construire avec tous les habitants qui composent ce territoire.
Est-ce qu'à plus long terme, il a envisagé un transfert plus large des compétences des communes vers la métropole ?
Alors, c'est une question effectivement qu'on peut se poser, parce qu'on est dans un mouvement qui n'est pas récent. Hein, depuis les lois Chevènement de 1999, on voit qu'il y a une volonté de mutualiser les moyens disponibles pour permettre d'offrir des services à des usagers qui se regroupent dans des conurbations qui nécessitent effectivement que chacun mette en commun ses moyens. La loi MAPTAM prévoit notamment que, faute d'accord entre le département et la métropole, au 1er janvier 2017, les routes départementales passeront à la métropole.
Alors le sujet est évidemment très très vaste, donc on va quand même essayer de poursuivre avec un dernier extrait d'interview sur les visions des maires pour le projet métropolitain.
Quelle est votre vision du projet métropolitain de Grenoble-Alpes-Métropole ?
D'un point de vue strictement politique, nous sommes des nouveaux élus et qui plus est, nous n'étions pas forcément convaincus par l'intérêt d'un passage aussi rapide à la métropole. On se retrouve avec une communauté d'agglomération qui était déjà peu intégrée en termes de compétences, qui en plus devait gérer un agrandissement, un élargissement et qui en même temps doit passer en métropole. Donc on n'était pas convaincu par ce scénario. Maintenant que ce scénario, de toute manière, a été confirmé par le législateur, notre position, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. L'autre enjeu, c'est les habitants. C'est vraiment une métropole de proximité. Si on arrive à réussir ce pari, je crois qu'on aura gagné.
Luc Puissat pour Miribel Lanchâtre.
Le projet métropolitain, c'est notamment la transition énergétique, avec le plan Air Climat, c'est le logement, un effort important qui est fait sur le logement locatif, logement social, c'est la tarification solidaire et sociale de l'eau potable. Voilà quelques pistes qui nous amènent à travailler ensemble.
Guy Genet pour Vif.
Il faut arrêter de jouer chacun dans ces villes, des petites villes gauloises. Là. Moi, je suis très favorable à l'union des communes, au rassemblement des communes. Et il y a un projet métropolitain qui va prendre vie. C'est le projet métropolitain qu'il y a sur Champollion. À Vif, on a la chance d'avoir eu Champollion, on a un grand parc, on a une maison. Mmh. Et j'ai discuté plusieurs fois avec le président Ferrari. Mmh. On est complètement en phase. C'est un projet culturel métropolitain. Moi, j'y suis très, très, très favorable. Ça fera vivre Vif, ça fera vivre la métropole et ainsi de suite. Hein.
Alors, on entend bien, il y a un débat politique, hein, évidemment. Mais alors, à quel point le projet métropolitain dépasse-t-il les clivages politiques, Frédéric Jacquard?
Bon, c'est une question effectivement très politique, mais je pense que le projet métropolitain, il va s'axer sur le fait que la métropole, ce n'est pas une zone centrale et puis des couronnes successives. On est vraiment sur un territoire polycentrique et, polycentrique, et l'idée, c'est justement de faire en sorte que grâce à la métropole, on ait un développement équitable sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y ait pas une seule commune qui ne bénéficie pas en fait, de ce développement territorial. Alors, l'un des maires l'a cité, hein, je crois que la transition énergétique, c'est vraiment un des axes de ce projet métropolitain. Il y a également, je pense, la solidarité qui est un des atouts que possède Grenoble, et grâce à cet outil qu'est la métropole, puisque la métropole c'est un outil, grâce à cet outil ça permettra de conforter ces politiques de solidarité, et le PLUI permettra d'asseoir la cohésion territoriale. Donc on est bien sur une métropole polycentrique où chaque commune a sa place, et le projet est bien de développer sur l'ensemble du territoire les services au bénéfice des habitants.
Alors on commence à bien cerner le projet grenoblois et on voit comment il se dessine au fil des mandats. Au niveau national, est-ce que la création de ces 14 métropoles ne va pas créer des territoires à plusieurs vitesses ?
Alors je pense que l'intérêt justement c'est de disposer au niveau national d'un certain nombre de locomotives. Et ces locomotives, elles tirent plutôt l'ensemble des territoires, et notamment les territoires voisins, parce que si l'on conforte l'emploi, par exemple, sur le bassin grenoblois, ceux qui viennent travailler ne sont pas nécessairement les habitants du territoire grenoblois. Ça peut être des habitants du Voironnais, du Grésivaudan ou autres. Donc je pense que c'est plus un atout et une chance d'avoir ces métropoles qui vont tirer au niveau national, y compris les territoires voisins.
Ce cinquième numéro de Gracianopolis touche maintenant à sa fin. Avant de vous quitter, on souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission consacrée à Grenoble-Alpes-Métropole. Merci à vous, Frédéric Jacquard, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Pierre Béjagy, premier adjoint à la maire de Hébin, Christiane Raffin, maire de Provézieux, Guy Genet, maire de Vif, Raphaël Guerrero, maire de Jarry, et enfin Luc Puissat, maire de Miribel-Lanchâtre, pour les entretiens qu'ils nous ont accordés. Yvan, nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Gracianopolis. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre audioblog mixcloud.com/gracianopolis et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir, à bientôt.
Merci.